écoutez présentement Radio H.
Aïe, bonsoir tout le monde, ok? C'est Tony qui vous parle, ok? Approchez-vous, venez-vous-en, ça c'est mon kiosque, c'est ok? J'ai un petit projet à vous présenter, la radio H2O, j'ai tout plein d'affaires à vous présenter. Mais ouais, c'est bien belle fun, ok? Toi, viens ici, toi, j'ai quelque chose à te présenter.
En as-tu des crêtes de fromage, toi?
J'en ai des crêtes de fromage, hein?
As-tu des crêtes de radio H2O, toi? Hein?
Hey, j'en ai pas mal de radio H2O, t'en veux-tu un petit peu?
Va t'en prendre, crêtes de radio H2O, hey!
Moi, j'ai des bonnes émissions, j'ai les 777 ici, j'ai les ADDMP, c'est une gang de Mongols, j'ai deux gars et une fille, on a tout plein d'émissions, c'est qu'est-ce que tu veux? Tu veux une pieuvre, on va t'en donner une pieuvre,
j'en ok? J'en veux une pieuvre Aldress, moi, t'en as-tu des Aldress?
On en a des Aldress, il parle totalement n'importe quoi, c'est-à-dire, il va te parler d'informatique, il va te parler de filles, même s'il pogne pas avec les filles, c'est pas grave, s'il y en a les émissions.
Okay? Moi, c'est des technopolitiques, t'en as-tu des technopolitiques, hein?
À la craquelle, il y en a des technopolitiques pour toi, tu vas voir, c'est-à-dire. Hey, on a aussi un autre craqué mental, ok? Il s'appelle Neo, il pense à des affaires extraterrestres tout le temps, c'est bon pour toi aussi, tu vas aimer ça, tu vas voir!
Ah, c'est bon ça, hein? Puis ça coûte cher ça, c'est pas cher!
Seulement 12 paiements de 19,95$,
esti! T'apprends 15, esti!
T'apprends 15, m'a donné un free t-shirt en plus!
Radio H2O, une gourde d'informations parmi le désert médiatique. Radio H2O, une gourde d'informations parmi le désert médiatique.
Bon, ça marche pas. C'est quoi qui se passe, mon Radio H2O?
Enseignement. Information, éveil, conscience, sérieux, pas sérieux, radio H2O.
You don't know the power of the dark side.
En direct de nulle part, c'est EDDNP.net. Vendredi, 20h, nous sommes en direct de nulle part, sur Twitter, /EDDNP, live, le vendredi, 20h.
Ok, c'est bon, merci, T-Dark, merci, ok, c'est beau, merci, on a assez, T-Dark, c'est beau.
Très bien. Je me retire dans ma loge noire.
Vous vous intéressez à la croissance personnelle et à l'éveil de votre conscience? Eh bien, le monde selon Néo de Québec est pour vous. Cette émission est diffusée tous les mercredis soirs de 19h à 22h, heure du Québec, sur les ondes de Radio H2O.ca.
On a un petit problème, je vais vous mettre en attente, on revient tout de suite.
Embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul. Embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul. Une présence inconnue. Jusqu'à ce que j'en peux plus.
Ah bon, c'est réparé, nous revenons, je repars tout ça.
Going live!
Radio H2O, fier commanditaire du camp de bûcheron aux deux H.
C'est bon.
Ah oui, pour le tape.
Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, please welcome le H2O Show avec Keith
Gargal.
Hello tout le monde, il est le 8 mai 2012, ouais c'est ça. J'étais en train d'ajuster mon niveau sonore un petit peu. Je suis tout seul. Ça va être un podcast peut-être un petit peu plus court, mais on va essayer de faire ça bien malgré tout. ça me fait bizarre, personne d'autre. Je suis quasiment le réflexe de renvoyer la balle à l'autre, là, mais il n'y en a pas d'autre. Puis on n'a pas de Q3 non plus. Il doit être en train de jouer au golf, je sais pas. Il y a... Tu peux arrêter ça, cette musique-là. Hier, je ne sais pas si vous avez regardé, il y a eu, deux gars et une fille qui ont reçu l'inventaire du Neo Stove, celui qui avait passé, qui avait été présenté, comment ça s'appelle, par Hydrogénial, la fameuse invention qui est une espèce de brûleur, très efficace. Puis c'était bien intéressant, puis en même temps, ils ont parlé de pyrolyse. Et je vais revenir là-dessus. J'ai fait un petit extrait aussi. Je trouvais ça bien le fun, toute la compétence du gars, à quel point il avait fouillé. Mais versus aussi, c'était quoi ses buts? Puis justement, en parlant de ses buts, j'avais fait un extrait à propos du Neo Stove que je vais vous passer presque à l'instant. Je vais vous trouver ça. Neo Stove construit en 10 minutes. Je vois même pas le fichier au complet. Ah oui, but derrière le Neo Stove, c'est en plein ça, je vous passe ça à l'instant, ça c'est l'extrait d'hier, lundi, de Gunfille.
Ah, mais là toi éventuellement, tu expliquais, quand tu expliquais ça devant tout le monde, tu avais des intentions quand même assez nobles là-dessus, tu voulais même emporter ça dans les pays pauvres comme Haïti et si je m'abuse, c'est ça?
Ouais, je vais te reprendre. Je dirais pas pays pauvre. Je crois pas que Haïti soit un pays pauvre. C'est juste qu'ils vivent différent de nous autres. Ils vivent dans le fond, en tout cas, comme moi, je veux devenir autonome. Et
yes.
Je connais pas d'Haïtiens. J'ai pas entendu parler d'Haïtiens qui sont morts de soif ou de faim. Mais oui, ils cuisinent sur des feux ouverts, puis ça pollue énormément. Fait que oui, cette technologie-là, je veux l'apporter là-bas.
OK.
J'ai une porte d'entrée, je me suis fait offrir une porte d'entrée, puis je vais la prendre.
Ah, c'est excellent, ça.
Je peux pas en parler, là, ça serait pas respectueux, mais il y a quelqu'un d'assez important qui est prêt à m'aider à aller m'installer là-bas, là, pour faire une usine de pyrolyseur.
Non, pas la fondation Bill et Melinda Gates.
Non.
Mais ton projet en Haïti serait un projet d'environ de combien d'années ou juste plus qu'un an probablement?
Ben mon but avant c'était comme ça. Je voulais vendre des pyrolyseurs ici, puis prendre une partie des fonds pour en bâtir ici, puis les vendre, les donner là-bas directement. Mais on m'a dit vraiment que c'était pas une bonne idée. Fait que moi je suis bien content de ça parce que ils disent que c'est mieux d'aller setter une usine là-bas.
Okay. Fait que
aller là-bas, je vais monter l'usine, je vais leur montrer comment aller à la pêche, puis après ça, je vais pouvoir m'en aller puis faire mes autres affaires. J'aurais pas besoin de m'occuper des autres tout le temps. Fait que moi j'aime bien mieux leur montrer comment faire, puis après ça, ils continuent là, dans le fond, c'est ça qu'ils veulent.
Ouais.
D'après ce que j'ai pu. Moi je sais pas, je suis jamais allé là-bas, là, mais c'est ce qu'on m'a dit, c'est ça qu'ils veulent.
Okay.
Je vais leur donner ce qu'ils ont besoin, puis après ça, je vais continuer ailleurs. Mais c'est vraiment c'était ça mon intention parmi les autres. Là, c'était pour avoir des sous pour faire continuer ma recherche et les développements dans l'énergie libre et aller pour cet appareil-là, aller là-bas au début. Là. J'ai Haïti, j'ai des gens en Inde aussi qui sont très intéressés, mais j'ai beaucoup de difficultés à communiquer avec eux autres. Je sais pas si... S'ils transcrivent, s'ils changent le transcript en anglais, là, mais j'ai bien de la misère.
Ah.
ça va me prendre des porte-paroles pour communiquer avec eux autres parce que moi, j'ai de la misère.
C'était ça, en gros, la fameuse extrait que j'ai faite. Je trouve ça admirable. C'est que Hydrogénial, c'est les buts, elles font, mais le gars, l'inventeur aussi, c'est pas juste qu'il l'a donné open source. En plus, il veut vraiment aider même les pays en... Lui, il dit pas pays pauvres, là, mais en tout cas, les pays qui auraient besoin d'aide un peu, je sais pas comment on pourrait qualifier. Puis je trouve ça vraiment super bien. En tout cas, si les élites, on ne peut pas attendre grand-chose d'eux, le mouvement démarrer, je trouve ça vraiment le fun à voir. C'était ça, en gros, que je voulais souligner. Puis après ça, ben, vous pouvez écouter toute l'émission, hein, vous le downloader de Gunfield. C'est du début à la fin, c'est juste ça, pratiquement. Il y avait, après ça, oui, il y avait Eric à la fin de l'émission qui avait souligné qu'il va y avoir un live d'Hydrogénial mercredi. Je ne sais pas là, je n'ai pas été voir. Mais en tout cas, je voudrais le rappeler, c'est quelque chose qui n'a pas manqué après-demain, finalement. Non, là, on est mardi, c'est demain. Excusez. C'était ça, en gros, pour les petites nouvelles d'intro. Puis là, je tomberais probablement à l'international. J'ai même pas pensé à aller voir pour le national. Ça me ressemble encore. Des attentats, la majorité des attentats sont organisés par la police. J'espère que c'est pas une vieille nouvelle, que je ne l'ai pas déjà passée. Je vais vous donner ça. Ah, il y a J.R. Racine qui dit que c'est 19h pour mercredi avec les Hydrogénial. Là, je viens de coller un lien dans la salle de communication. Ça n'a pas l'air d'avoir passé bien gros. Je vais aller voir malgré tout. Ça, c'est sur Wikistrike. La page retarde un petit peu à loader. Bon, c'est la source et Liberté Internet. Je ne sais pas c'est quoi la source. Ouais, on va voir. En tout cas, moi, j'avais juste à regarder le titre. On va voir si c'est intéressant. Au début du siècle, la police US fabriquait déjà des vrais attentats à la bombe imputés aux anarchistes afin de mieux réprimer le mouvement ouvrier. C'est une manipulation courante. Et sous Bush, chaque fois que l'administration Bush était confrontée à un problème politique, le chef du Homeland Security, soit entre parenthèses, c'est comme le nouveau nom du FEMA, si je me souviens bien, débarquait à la TV pour nous mettre en garde contre un nouveau projet d'attentat terroriste. En France, c'est Sarkozy qui nous fait le coup du terroriste d'ultra-gauche avec l'affaire Tarnac, si je suis vraiment pas au courant c'est quoi, ou bien Mohamed Mera, collaborateur des services secrets français, ou encore l'attentat de Londres avec les jeunes suivis à la trace par la police depuis des mois. Ça s'est demandé si les attentats du 11 septembre, Mais non, je n'ose pas penser à des choses aussi nauséabondes. Néanmoins, le terrorisme, c'est bien pratique quand même pour détourner l'attention du public des vrais problèmes. De nos jours, la principale activité du FBI consiste à démasquer des complots terroristes aux États-Unis et quand le FBI ne parvient pas à trouver suffisamment de complots pour justifier son existence, eh bien, le bureau les fabrique pour parader devant la presse avec ses trophées. Mais même la presse finissent par se rendre compte de quelque chose. Ainsi, dans un article publié la semaine dernière au New York Times, ose écrire « Ces dernières années, les États-Unis ont été préservés d'un certain nombre d'attentats meurtriers qualifiés par les terroristes sur notre sol et détectés à temps par les agents fédéraux du gouvernement. C'est du moins ce que l'on a voulu nous faire croire. » Là, il y a un lien par rapport à ça. C'est Mobile Time. Je vais aller voir c'est quoi, malgré tout. Je suis quand même curieux. Ça vient du New York Times, OK. Ces derniers mois, nous avons ainsi eu le droit à un kamikaze intercepté alors qu'il allait faire sauter le Capitole. Aïe, aïe, rien que ça. À de dangereux individus de Newburgh, dans l'État de New York, ont été mis hors d'état de nuire alors qu'ils se préparaient à lancer une vague d'attentats à la bombe contre des synagogues et des radicaux qui projettent de tirer des missiles sol-air Stinger contre des avions militaires. Plus fantaisiste encore, au Massachusetts, un projet de lancer des maquettes d'avions téléguidés bourrées d'explosifs contre le Pentagone et le Capitole a été stoppé à la dernière minute. Malheureusement, à y regarder de plus près, il apparaît que tous ces attentats ont été planifiés et encouragés par le FBI, dont les agents se sont fait passer pour des terroristes et ont fourni un missile factice, ici de faux explosifs C4 ou encore une veste kamikaze désarmée, voire des stages de formation à la préparation d'attentats. Les vrais faux terroristes ainsi recrutés ont naïvement cru participer à un complot du GIG. Ah, ça a dû être mal écrit. Hein, t'as comme ça, du Jihad, je sais pas quoi, là, peu importe. Jusqu'à ce que la police vienne défoncer leur porte au petit matin et les parader devant la caméra de télévision. Le journal britannique The Guardian a récemment publié un article qui souligne cet aspect, se demandant si de grande majorité de ces succès claironnés par le FBI dans la lutte antiterroriste de ces dernières années n'étaient pas tout simplement des complots fabriqués par le FBI lui-même. Selon les défenseurs des droits civils aux États-Unis, les FBI, même depuis l'époque de Bush, et nous souligne direct de l'administration, alors que notamment le vice-président et son conseiller Richard Perl, expert en manipulation, une vaste campagne d'infiltration dans toute l'Amérique, ciblant prioritairement la communauté musulmane, consistant à tirer les gens dans des faux complots terroristes. L'analyse des documents qui ont pu être obtenus sous couvert de la loi, la FOIA, Freedom of Information Act, montre que le FBI pratique ce qu'elle appelle la pêche au chalut, drôle de terme, dans la communauté musulmane, en voyant des infiltrés fréquenter les mosquées, des centres communautaires pour y tenir des discours islamiques radicaux et identifier des personnes perméables à ce discours pouvant être recrutées comme terroristes. Le FBI fait également feu de tout bois, y compris les informateurs les plus étranges. Ainsi, dans les années 2000, ils ont été contactés par un homme affirmant avoir eu le chef terroriste Ayman al-Zawahiri, en tout cas, c'est pas un Québécois, quand celui-ci vivait dans le nord de la Californie dans les années 1990. L'homme a immédiatement été embauché en tant qu'informateur et s'est vu remettre une forte somme d'argent en échange de ces informations. Il a continué à fournir des informations sur de prétendues cellules dormantes islamiques en Californie et en Arizona, déclenchant plusieurs raids sur des mosquées à travers le pays, menées sous l'œil de la caméra opportunément prévenue. Puis là, ben, ça continue comme ça, là, en gros. Là. Je pense qu'ici, ça ne nous étonne pas énormément, ben gros, ce genre d'informations-là, mais c'est bien le fun de voir ça écrit malgré tout. Je voudrais saluer, je vais me saluer moi-même, Gandalf, maintenant, mais il y a Peter Pan, J.R. Racine, Carrick, que me semble que ça fait pas énormément de temps qu'on te voit ici sur Radio H2O, c'est bien le fun. Puis, tous ceux qui nous écoutent, mais qui sont pas sur la salle de communication, vous pouvez venir. Avion de ligne. Oui, j'aurais une autre nouvelle. J'étais un peu déboussolé d'être seul le matin. Pas le matin, mais en tout cas, peu importe. T'es en train de charger la page. Ça, c'est les moutons enragés, la source et actualité news environnement. Je pense pas que c'est un média officiel, ça doit être du média alternatif. Je suis en train d'aller voir dessus. Je sais pas quelle sorte de média que c'est, mais en tout cas, on dirait un média plus pour l'environnement. Un avion de ligne sur une centrale nucléaire n'est pas si improbable. Le 2 mai dernier, à 7h40 du matin, un militant Greenpeace à bord d'un paramoteur a surveillé la centrale de Béguy, en tout cas, je ne suis pas sûr de bien le prononcer, à 35 km est de Lyon, et pénétrant dans l'espace aérien interdit, ceci représente un nouveau coup d'éclat de l'association quelques mois après l'intrusion militante dans une autre centrale de Nordgen-sur-Seine dans l'Aube. L'ONG écologiste Greenpeace a réalisé une nouvelle opération surprise pour dénoncer le manque de sécurité des centrales nucléaires françaises. Un militant a réussi à survoler la centrale nucléaire de Bugy dans dans l'Inde. A-I-N, avant de lâcher un fumigène sur la centrale et atterrir en parachute sur le site. Le survol illustre la vulnérabilité du site nucléaire français face à la menace d'une attaque aérienne, alors que l'Allemagne a pris en compte la chute d'avions dans ses tests de sûreté. La France refuse toujours d'analyser ce risque pour nos centrales, explique l'ONG. Greenpeace a choisi cette occasion pour publier, une étude réalisée par un expert britannique sur la vulnérabilité des centrales nucléaires françaises aux chutes d'avions. Résumé en texte intégral anglais, attendez une petite minute, il donne un lien, je vais vous donner ça si jamais ça vous intéresse. Je ne suis pas convaincu nécessairement, parce qu'on a déjà le résumé. Le militant écologiste qui a survolé la centrale a été intercepté dans la foulée par les gendarmes du peloton de sécurité de la protection de la gendarmerie PSPG, chargé de la sécurité des installations nucléaires, selon les informations obtenues par Europe 1. Il s'agit d'un Allemand de 29 ans, militant de Greenpeace. Toujours selon la même source, l'opération a failli mal tourner car à cause des turbulences provoquées par les cheminées de la centrale, il n'y a pas dû penser à ça le gars, la voile du paramoteur s'est mise en torche, obligeant le jeune homme à se poser en catastrophe 8 minutes après avoir été repéré en vol. Le militant de Greenpeace a été interpellé par les gendarmes à expliquer de la centrale. Un deuxième homme a été arrêté, il s'agissait d'un autre militant Greenpeace, un Français de 32 ans qui est soupçonné d'avoir guidé le premier homme depuis le sol. Ils ont tous deux été placés en garde à vue. Il faut savoir que la chute d'un avion de ligne sur une centrale nucléaire jugée peu probable par les autorités de contrôle n'a jamais été prise en compte, ni dans la conception, ni durant l'exploitation de nos installations. Pourtant, dans ce cas, des confinements primaires des 58 réacteurs seraient confrontés à un risque de défaillance, de même que les bâtiments abritant les piscines de refroidissement des combustibles irradiés seraient soumis à un risque de perforation et d'effondrement de leur structure. Ces piscines, qui contiennent souvent plus de combustibles radioactifs que le réacteur eux-mêmes, peuvent être à l'origine d'un accident nucléaire majeur, peut-on lire dans un communiqué de presse. Sur le site de Arles, sont stockées plus de 10 000 tonnes de combustible irradié dans des piscines de refroidissement, ainsi 64 tonnes de plutonium. Ces matériaux hautement radioactifs ne sont protégés que par le bâtiment simple sans renforcement spécifique contre une menace aérienne, a expliqué Greenpeace à un communiqué de presse. C'est vrai que les piscines, c'est un danger. On a un bel exemple avec Fujishima, mais les autres, c'était plus le raz-de-marée, finalement, qui a tout défoncé. Puis là, il y a toujours la piscine du réacteur numéro 4, si je ne me trompe pas, qui est toujours une préoccupation. Là. C'est une histoire à suivre. Attendez une petite minute. BFM est en train de trouver une autre nouvelle, possiblement. Ah ouais, ça pourrait être intéressant. L'Irlande, déjà un début de polémique qui est déjà présenté comme président. Dans 10 minutes, je vais vous donner ça. C'est sur Wikistrike, la source et Huffman Post, qui est un média officiel, puis ça aurait passé à BFM TV par rapport à la photo. L'Irlande avait prévu prendre le train. Fausse polémique ou vrai mauvais symbole, l'image de François Hollande prenant un avion privé le dimanche le 6 mai au soir de sa victoire contre Tulle, entre Tulle, Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. L'endroit où il avait voté dans la journée et où il fait son discours après l'annonce des résultats. Et Paris, là, où elle attendait des milliers de supporters à la place Bastille pour faire grosso modo 450 kilomètres, n'a visiblement pas plu à tout le monde. Le sujet a d'abord été évoqué dans la nuit de dimanche à lundi, les auditeurs de radio. Puis sur le réseau Twitter, plusieurs personnes y sont allées de leurs commentaires. Les uns ont fait reprocher que avec le dîner au Fouquet de Nicolas Sarkozy en 2007, les autres ont accusé de bling-bling. Ça, j'aimerais bien savoir c'est quoi vous attendez par bling-bling, vous les Français. Et ils ont relevé le coût du transport d'un avion comme celui-ci. D'autres, enfin, ont signé que François Hollande avait promis de prendre le train lorsqu'il serait président et qu'à peine élu, il rompt sa promesse. Les députés de Corrèze avaient en effet assuré en fin avril, lors d'un déplacement dans l'Inde et en terre, qu'une fois élu, il souhaitait utiliser le mode de transport par souci de proximité et en même temps d'économie. En tout cas, je pense que j'avais lu en quelque part que pour la location de l'avion en question, ça allait coûter 67 000 euros. Je ne me souviens plus à quel endroit, là. Mais c'est le fait qu'il disait qu'il allait prendre le train puis finalement, il se loue un avion privé versus qu'il condamnait Sarkozy de faire des dépenses effrayantes. Je pense qu'il a raté son coup un petit peu là-dessus. Je vais revenir dans ma liste de nouvelles. Ah, il y a Q3 qui vient de rentrer. Je vais aller voir si ça s'est dit quelque chose. Oui, puis il y avait Peter Pan qui m'avait collé une nouvelle j'avais vu rapidement, qui était intéressant. Ça vient de TVA Nouvelles, qui est un média officiel ici au Québec et qui prend bien de la place. Bientôt, un vaccin universel, point d'interrogation. Aïe, aïe. Des chercheurs de l'Université de Colombie-Britannique pensent avoir découvert une façon de développer un vaccin universel contre la grippe. OK, c'est juste contre la grippe, mais quand même. Ce vaccin protégerait contre la plupart des souches de la maladie. À l'heure actuelle, un nouveau vaccin doit être créé à chaque année parce que les virus mutent d'une saison à l'autre. Les anticorps activés par le vaccin deviennent donc inefficaces. Les chercheurs ont constaté que le vaccin contre la grippe H1N1 qui a sévi en 2009 pourrait protéger contre plusieurs souches du virus, notamment le redoutable grippe aviaire H5N1. Ils veulent prendre le H1N1 pour nous protéger d'autres virus, pas pire ça. Le virus de la grippe contient une protéine, l'hémagglutinine, qui ressemble à une fleur. Avec une tête et une tige, le virus pénètre et infecte les cellules par le biais de sa partie supérieure, la tête. C'est celle-ci qui vise systématiquement les vaccins. Explique l'auteur principal de cette étude, John Schrader. Or, la tête de l'hémagglutinine change rapidement au fil des mutations en ciblant la tige de la protéine qui elle, ne change pas. Et joue un rôle essentiel dans la propagation de l'infection. Un vaccin pourrait protéger contre une foule de souches grippales. C'est ce que pense permettre le vaccin contre la grippe H1N1. La grippe saisonnière affecte 3 à 5 millions de personnes à travers le monde. Chaque année, tue 250 000 à 500 000 individus selon l'Organisation mondiale de la santé. Les résultats de ces travaux ont été publiés dans la revue Fortier in Immunologie. Je sais pas, mais j'ai comme des doutes là-dessus. En tout cas, à date, là, il nous a assez bourré avec H1N1. Là. Et il nous avait promis des morts à pelleter ici au Québec. C'était l'enfer. En tout cas, TVA, là, il nous avait bourré pas mal fort, mais faudrait-tu dire malgré eux ou ils savaient, mais ils n'osaient pas trop parler, puis finalement, ils ont suivi la question qu'on leur disait. Là. Aucune idée, mais en tout cas, c'était pas fort. C'est une vraie campagne de peur qu'ils avaient faite. Moi, je vais partir en musique pour vous en revenir tantôt. Je vais vous trouver ça, ça ne sera pas long. Je vais démarrer la musique, puis on revient tantôt.
Thank you.
Vous aimez nos émissions et vous aimeriez y participer? Alors rien de plus simple, la section chat Woui comme dans Minou, en direct, est disponible pour nos membres de Radio H2O. Cliquez sur le lien s'enregistrer en haut à droite du site, une opération qui nécessite 45 secondes de votre part, qui vous permettra de partager avec nous dans la salle de... dans le chat en direct. Le chat en direct. Voyons, Minou! Sois pas frustré, on vous attend.
Et nous revoilà après la musique. Il y a, c'est qui? J.R. Lassine qui m'a donné un lien dans la salle de communication. Elle s'ennuie grâce à son jardin planté dans son minuscule appartement de New York. Agriculture, c'est choix. C'est soi. Madame Brita Ritley possède un petit appartement à New York. Un jour, se rendant compte que de sa dépendance alimentaire, elle décide de mettre au point un jardin vertical. Ah, ça a l'air original. Avec ses amis, elle a développé peu à peu un système pour faire pousser des plantes dans une vieille bouteille de plastique, en plastique, en les accrochant les unes, en les accrochant sur ses fenêtres. Avec le temps, le système s'est édulcoré. Ils ont vaqué à de nombreuses modifications jusqu'à obtenir des tomates cerises et des concombres. Je vous propose de regarder une vidéo de 7 minutes sous-titrée en français qui vous permet de créer votre propre jardin si vous souhaitez, juste après une petite photo. Ah, c'est spécial. Je vais aller voir la vidéo quand même, ça m'intrigue.
I, like many of you, am one of the 2 billion people on Earth who live in cities. And there are days, I don't know about the rest of you guys, but there are days when I palpably feel how much I rely on other people for pretty much everything in my life. And some days that can even be a little scary. But what I'm here to talk to you about today is how that same interdependence is actually an extremely powerful social infrastructure that we can actually harness to help heal some of our deepest civic issues if we apply open source collaboration. A couple of years ago, I read an article by New York Times writer Michael Pollan, in which he argued that growing even some of our own food is one of the best things that we can do for the environment. Now, at the time that I was reading this, it was the middle of the winter, and I definitely did not have room for a lot of dirt in my New York City apartment. So I was basically just willing to settle for reading the next Wired magazine and finding out how the experts were going to figure out how to solve all these problems for us in the future. But that was actually exactly the point that Michael Pollan was making in this article, was it's precisely when we hand over the responsibility for all of these things to specialists that we cause the kind of messes that we see with the food system. So, I happen to know a little bit from my own work about how NASA has been using hydroponics to explore growing food in space. And that you can actually get optimal nutritional yield by running a kind of high-quality liquid soil over plants' root systems. Now, to a vegetable plant, my apartment has got to be about as foreign as outer space. But I can offer some natural light and year-round climate control. Fast forward 2 years later, we now have window farms, which are vertical hydroponic platforms for food growing indoors. And the way it works is that there's a pump at the bottom which periodically sends some of this liquid nutrient solution up to the top, which then trickles down through plants' root systems that are suspended in clay pellets, so there's no dirt involved. Now, light and temperature vary with each window's microclimate. So a window farm requires a farmer, and she must decide what kind of crops she is going to put in her window farm and whether she's going to feed her food organically Back at the time, a window farm was no more than a technically complex idea that was going to require a lot of testing. And I really wanted it to be an open project because hydroponics is one of the fastest growing areas of patenting in the United States right now and could possibly become another area like Monsanto, where we have a lot of corporate intellectual property in the way of people's food. So I decided that instead of creating a product, what I was going to do was open this up to a whole bunch of co-developers. The first few systems that we created, they kind of worked. We were actually able to grow about a salad a week in a typical New York City apartment window. And we were able to grow cherry tomatoes and cucumbers, all kinds of stuff. But the first few systems were these leaky, loud power guzzlers that Martha Stewart would definitely never have approved. So to bring on more co-developers, what we did was we created a social media site on which we published the designs, we explained how they worked, and we even went so far as to point out everything that was wrong with these systems. And then we invited people all over the world to build them and experiment with us. So actually now on this website, we have 18,000 people, and we have window farms all over the world. What we're doing is what NASA or a large corporation would call R&D, or research and development. But what we call it is R&DIY, or research and develop it yourself. So for example, Jackson came along and suggested that we use air pumps instead of water pumps. It took building a whole bunch of systems to get it right, but once we did, we were able to cut our carbon footprint.
Je vous fatiguerai pas avec toute la vidéo, mais c'est assez capoté. C'est que la madame, elle parle carrément de comment dire que cette patente-là, si j'ai bien compris, elle voulait pas que ça soit breveté. Je sautais des mots en même temps que je regardais d'autres choses. Puis elle voulait que ça soit comme open source un peu, puis faire collaborer tout le monde pour développer ça, pour que le monde puisse faire pousser leurs légumes chez eux facilement sur le principe de l'hydroponique, puis qui ont développé ça, beaucoup de monde ensemble, là, tout un réseau social ensemble. C'est assez capoté. Là. Ça va un peu dans le principe, un peu dans le fond d'hydrogénial, ce que tout est partagé pour que tout le monde devienne autonome. C'est vraiment quelque chose, il va falloir que je garde un lien là-dessus. Ouais, mais J.R. Racine, t'es tombé sur quelque chose d'intéressant. Je vais me le copier-coller tout de suite pour le conserver. Ça sera pas bien long. Cycle. Je vais vous remettre l'audio, je reviens ça dans un instant.
Pending on these systems as well that's held by the community. And to fund the project, we partner to create products that we then sell to schools and to individuals who don't have time to build their own systems. Now, within our community, a certain culture has appeared. In our culture, it is better to be a tester who supports someone else's idea than it is to be just the idea guy. What we get out of this project is we get support for our own work as well as...
Bon, là, voilà, j'ai sauvé ça. Il y a Q3 qui marque Gandalf arrête de scraper son nom. J-Racing, OK. Bon, attendez une petite minute, je vais revenir dans mes moutons, moi, là. En parlant des moutons, je pourrais embarquer dans mes moutons enragés. Un autre volcan qui rentre en éruption, je vais vous donner le lien à l'instant. Mexique, le volcan, le Popocatépetl, en tout cas un nom épouvantable, entre en éruption. C'est en rapport direct avec le sujet proposé par Aigle, en tout cas je ne sais pas le nom, et cela fait donc partie des signes qui doivent inquiéter. Vue aérienne du volcan, il y a une photo. Avec notre correspondant de Mexico, Patrice Guillou, quelque chose de même. Le sud de la ville de Mexico est recouvert d'une fine couche de cendres vertes et grises. Ah, mais ça doit être décoratif. Que le Popocatépetl a exalté au cours des dernières heures. Le maire de Mexico a demandé à la population des quartiers les plus touchés d'être attentifs et de prendre quelques mesures de précaution. Les services de protection civile ont distribué 5 000 il y a une erreur, la façon qu'on plaçait le zéro. C'est 50 000 masques filtrants aux habitants. Quand les microparticules chargées de fluor sont très nocifs, en particulier pour les enfants et les personnes âgées. Les activités sportives à l'air libre sont suspendues. Il est recommandé de mettre des torchons mouillés sous les portes et les fenêtres et ne pas manger sur la voie publique. Les services de voirie demandent aux habitants de balayer les cendres et de mettre à la poubelle, surtout ne pas mouiller car le mélange d'eau, elles deviennent du ciment et peuvent obstruer le système de drainage. Le président Philippe Calderon a informé que par Twitter, au pied du Popocatépetl volcan, l'alerte jaune en phase 3 est maintenue. Car les émissions actuelles de vapeur et de gaz de cendres sont constantes, mais dispersées par les vents et ne représentent pas de danger majeur. Ça, la source serait RFI.fr puis Conscience du Peuple, via Conscience du Peuple, excusez-moi. Il y a eu énormément de volcans récemment, comme plein d'affaires. Là. C'est assez capoté comment il y en a, mais en tout cas, on dira pas fin du monde pour autant, là, mais c'est clair qu'il se passe des choses. D'ailleurs, fin du monde, c'est bien relatif. Là. Il essaie de nous bourrer le crâne à la masse avec ça. Là. C'est peut-être plus ça, le fait des médias qui gonflent ça. Attendez une petite minute. Que je me démélange dans mes affaires. Bon, OK. Ouais, j'en ai une grosse. Imposture côté santé. Je vais vous donner ça. Ça, je ne pourrais pas passer à la vidéo, parce que sa vidéo est vraiment longue. C'est les moutons enragés encore. Je ne sais pas si c'est un scientifique ou quoi. Attends un petit peu, je vais essayer de trouver. Mais l'imposture de l'industrie du sida, un génocide pharmaceutique. C'est assez spécial. Le sida, un scandale médical totalement emblématique de notre époque, tant par le tapage médiatique, dont le syndrome est l'objet, que par les conséquences dramatiques de la mauvaise interprétation des phénomènes de déficience immunitaire. Luc Montagné, prix Nobel de médecine découvreur du virus du sida, proclame la vérité sur celui-ci. Il dénonce la supercherie très lucrative qui, en plus d'avoir conduit à la mort médicamenteuse de millions d'êtres humains à travers le monde, rapporte encore des milliards de dollars. Il annonce également que l'on peut en guérir et dénonce une supercherie très lucrative, une vraie bombe atomique. Pour la recherche qui est en train de nous concocter un bon vieux vaccin pourri, histoire de continuer à ramasser des milliards d'euros. Lui, dans le fond, il est en train de dire, pas que j'ai pas tout à regarder, c'est 45 minutes, j'ai pas eu le temps de passer à travers, mais j'étais déjà au courant d'une petite chose semblable un peu. Ça a l'air de venir d'une espèce de média alternatif qui ont l'air quand même avoir les moyens de s'installer comme un poste de télévision, cravaté puis tout le reste. En tout cas, c'est, tu vois qu'ils ont voulu se donner les moyens un petit peu. Comment je pourrais dire ça? C'est que le gars, on dirait, c'est qu'il dit que le sida n'existe pas en tant que tel, le syndrome, mais il a l'air à dire que le virus lui-même, il n'aurait jamais été découvert. Ça serait une fraude totale. Puis il avait déjà, lui, été une espèce de symposium de la médecine où, justement, il avait dénoncé ça. Puis là, ils avaient mis un montant d'argent pour qui arriverait à, comment dire, le contredire. Puis à ce jour-ci, les médias l'ont boudé, mais il n'y a personne qui l'a démenti. Ça fait qu'il y aurait de quoi à creuser là-dessus, autour de tout ça. Là. C'est peut-être que c'est comme le cancer, ça existe réellement. Mais on bourre le monde de chimiothérapie et autres qui, d'un côté, aide, puis d'un côté, en même temps, ils risquent de tuer à personne. On n'a peut-être pas les meilleures méthodes, mais c'est lucratif. Attendez une petite minute dans les vidéos. Ah, puis en passant, la vidéo est en français. Hein. Il faudrait vraiment aller voir ça. Ouais, j'ai fait une section monde fou. Puis c'est pas pour rien que j'ai mis ça dans mes affaires. Vous allez voir ça, là. Ça comme pas d'allure. J'ai pris ça sur Wikistrike, si ça avait bien loadé. Une petite minute. Enquête des pilules de viande humaine. Ça viendrait du média 7SS. C'est un média belge, je me souviens bien. La police sud-coréenne tente de lutter contre le trafic d'un genre nouveau, celui des pilules réalisées à partir de chair humaine. Attendez une petite minute, je vais juste ajuster un petit quelque chose. Ça ne sera pas long. Ouais, OK. Selon les douaniers sud-coréens, les contrôles ont été renforcés après la découverte de certaines pilules destinées soi-disant à améliorer les performances sexuelles des hommes. Mais ces médicaments seraient en fait réalisés à base de fœtus morts ou avec de la chair d'enfants décédés. Une pratique inacceptable moralement, mais également d'un point de vue sanitaire, étant donné que chacune de ces pilules représente un véritable danger pour les personnes qui les ingurgitent. Celle-ci serait un véritable nid à bactéries, selon les responsables coréens qui tentent désormais de lutter contre le trafic de ces pilules qui viendraient de Chine. C'est en août dernier que ce trafic a été découvert. Depuis, près de 18 000 boîtes de pilules de viande humaine ont été saisies par les douaniers sud-coréens. Dégueulasse. Pas grand-chose à dire là-dessus. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il dit. Je n'ai pas raté des liens, surtout. Je ne vois pas de lien raté. Puis écoute-toi, il dit, c'est une vieille émission des années 80 que ma mère écoutait tout le temps. Ah, OK. Ah, c'est vrai que ça n'a pas l'air jeune, juste l'image, là. Je vais aller dans section insolite. Ça, c'est le fun. Oups, merde. J'ai. Attendez une petite minute. C'est pas exactement ça que je voulais. Un perroquet donne. Merde. Il y en a fois, il va falloir que j'améliore dans mes patentes quand j'arrive à faire un copier-coller. Des fois, je sélectionne toute la page au complet. Un perroquet perdu donne son adresse à la police. Attendez une petite minute. Ouvert 5-6 pages en même temps. Comment se planter tout seul? Bon, un perroquet a perdu à donner son adresse à la police mercredi dernier. Ça, c'est une nouvelle qui date du 5 mai sur Wikistrike. Un perroquet perdu donne à la police son adresse. Mercredi, la police japonaise a pu reconduire un perroquet égaré à son domicile après que ce dernier leur a adressé donné l'adresse de la propriétaire. C'est une anecdote cocasse que vient de relater la police japonaise en début de semaine. Ils ont récupéré un perroquet égaré qu'ils ont réussi à ramener chez lui en suivant tout simplement les indications données par l'oiseau lui-même. En effet, le perroquet avait quitté son domicile situé dans la ville japonaise de Shigamihara dimanche matin, avant de se poser peu après sur l'épaule d'un inconnu. C'est ce dernier, en comprenant que l'animal est garé, qui l'a amené aux autorités. L'enquête de police a été relativement simple. Mardi soir, l'oiseau a répété trois fois de suite le nom de la ville et l'arrondissement de sa résidence. Il a ensuite prononcé distinctement les numéros des portées de maison et du domicile de la maîtresse, de sa maîtresse, devant les trois policiers qui, bien qu'interloqués, sont restés attentifs au dire du volatile. L'adresse qu'on a complétée, il a alors suffi de ramener l'animal à sa maîtresse, Jenner, qui a expliqué qu'elle avait déjà perdu un perroquet. Celle-ci a donc pris des précautions pour ne pas perdre celui-ci. Elle avait enseigné son adresse à ce perroquet après l'avoir acheté il y a 2 ans, a raconté à AFP une porte-parole de la police locale. Mais ce n'est pas tout. Après qu'a appris l'oiseau, sur le trajet de retour à son domicile, le perroquet a même donné son nom au policier japonais. Selon la même porte-parole, l'animal aurait déclaré aux agents « Tu es mignon ». C'est Pinko Chan, ça doit être l'original japonais. Là. Je trouvais ça assez particulier. Puis une autre nouvelle, il se cogne la tête puis devient un génie. Mais je pense que je vais passer une nouvelle, pas une nouvelle, mais je vais dire une pause musicale dans des petites minutes. J'aurais dû, c'était ça d'avance, ça aurait été bien. Led Zeppelin, la version originale que je pars à l'instant. Oups, ça serait bien en cliquant dessus.
Thank you.
C'était Stairway to Heaven de Led Zeppelin, version d'origine. J'ai une nouvelle, s'il se cogne la tête, devient un génie. J'ai pogné ça sur Wikistrike, la source 776.b. Vendeur américain est devenu un véritable génie après un accident survenu il y a 10 ans. Jason Padgett, en tout cas, ça doit être, ça ressemblait à ça le nom, 41 ans, est un vendeur dans un magasin de meubles de la ville de Tacoma, à Washington, aux États-Unis. Selon lui, les mathématiques étaient loin de le passionner à l'époque. Mais un soir, alors qu'il rentrait chez lui, il a été agressé par plusieurs hommes qui l'ont battu à coups de pied. Jason a reçu un coup à la tête et sa vie a complètement été transformée. Tout ce que je voyais, c'était une lumière brillait, confiait-il à la chaîne ABC News. J'ai pensé qu'ils ont dû me tuer. Jason a été amené à l'hôpital où les médecins lui ont diagnostiqué une commotion cérébrale, mais ils ont rapidement constaté que sa vision du monde avait changé. Le jeune homme qui avait abandonné ses études secondaires à cause de ses résultats catastrophiques, s'est mis à dessiner des diagrammes complexes sans comprendre ce qui lui arrivait. Méchant changement. Je suis obsédé par les nombres, par la géométrie, confie-t-il, en indiquant qu'il n'a pas un seul instant désormais où il ne voit des schémas dans sa tête. Je vois des morceaux des théorèmes de Pythagore partout. Chaque petit cube, chaque spirale, chaque arbre font partie de cette équation. À l'instar des plus grands mathématiciens, Jason s'est mis à dessiner des figures fractales. Une fractale est une forme dont chaque morceau est similaire à la structure de l'ensemble, explique celui-ci, qui ignorait jusqu'à l'existence de ce mot avant son agression. Le cas de Jason Padgett intéresse les experts selon son talent soudain pour les mathématiques est un mystère pour la médecine qui se sont penchés sur son cas pour tenter de comprendre ce qui s'est produit dans son cerveau. Au moment du choc, un neuroscientifique du Centre de neurodynamique de l'Université de Missouri, Saint-Louis, Berry, Brongniart, a demandé à Padgett de le suivre en Finlande pour effectuer une série de tests qui ont révélé que Padgett était un génie et à savoir un homme extrêmement doué dans un domaine spécifique. Jason Padgett veut désormais changer de vie. Il vient d'annoncer qu'il souhaitait abandonner son job de vendeur pour enseigner les mathématiques. Méchant changement. Puis là, il y a une vidéo là-dessus de Fox News que vous pouvez aller cliquer si vous voulez, mais ça va être en anglais. Je suis pas sûr que ça va intéresser plus qu'il faut. Regardez une petite nouvelle que je trouve un peu spéciale. IKEA qui sort des appareils photo numériques en carton. Il faut aller voir la photo, c'est un peu spécial. Je vais aller cliquer dessus. Les magasins IKEA se spécialise essentiellement dans les ameublements à des prix démocratiques. Se sont intéressés aux produits électroniques. Tout récemment, ils l'ont présenté à une télévision encastrée dans une commode et maintenant un appareil photo numérique en carton très bon marché sans écran. Le détail le plus original de ce gadget est le viseur, un trou dans le carton. Ça suffit cependant pour prendre des photos. La mémoire de l'appareil ne peut contenir qu'une quarantaine de clichés, mais le port USB permet de connecter à l'ordinateur et de libérer ainsi la mémoire. L'utilité de ce gadget est bien sûr contestable, surtout si l'on se souvient que presque tout portable est doté d'une caméra et qu'IKEA croit évidemment que l'appareil sera acheté par blague ou pour s'initier à la lomographie. Je ne sais pas c'est quoi la lomographie, en tout cas. Il y a... Ça ressemble à un film de John Travolta, Phénomène. Ah oui, ça se peut. Attends une petite minute, je vais revenir en arrière. Ouais, j'ai pas mal passé à travers mes nouvelles. Mais avant de finir, je voudrais quand même souligner quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez l'autre monde. Pas l'autre monde, l'astral ou quelque chose de même, là, mais une émission radio à l'UQAM avec François Marginia. dans le fond, il fait un peu de la nouvelle alternative, un peu comme nous autres. J'ai trouvé ça intéressant. Je me disais que ça serait intéressant à souligner, surtout que ça rejoint pas mal tout le monde de Radio H2O. Normalement, il diffuse ça le lundi à 15h, dans le fond, tout de suite après notre émission. Mais ça peut être downloadé, ça qui est bien intéressant. Puis je vais vous donner le site web, si jamais ça intéresse, puis j'aurai un petit audio, un extrait de ça, pour donner un petit peu une idée. Là. Je vais aller chercher l'audio. Ah, et la salle lag. Hein. Attendez une petite minute, où j'ai mis ça? Ça, c'est d'aujourd'hui. Il me semblait que j'avais mis l'extrait à cet endroit-là. Ah, et l'extrait de l'autre monde. Je vous passe ça à l'instant.
Eh bien, bien. Eh bien, vous êtes de retour à votre cyber revue de presse L'Autre Monde. Bien oui, bienvenue encore une fois à cette édition, cette fois du 7 mai 2012. Je me nomme François Marginal et je serai avec vous pour les deux prochaines heures sur les ondes de Choc FM, l'alternative à Montréal et dans le monde, la radio officielle de l'UQAM. Alors voilà, c'est le retour de l'autre monde encore une fois, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Donc, cette semaine sur la table, nous avons plusieurs sujets. Nous avons évidemment parlé d'actualité mondiale. On va toucher un peu aussi la scène canadienne ici, la crise étudiante, les élections françaises. On va parler de Fukushima. Donc, ça devrait faire le tour de la question pour cette semaine. Donc, voilà.
Et oups, ça coupe ça. Ouais, je pense qu'il y a un son un petit peu compressé. Je l'avais pas fait grimper trop, mais c'était maintenu à un niveau quand même assez élevé. C'est ça. Il y a à peu près tous les sujets. Ils dénoncent beaucoup côté mondialisation, tout ce qui se passe, tout un peu, dans le fond, tout ce qu'on dénonce nous autres mêmes. Même nous autres, Radio H2O, ça pourrait être bon des fois d'écouter pour des fois extraire certaines affaires qu'on n'aura pas vues. Inversement, ils devraient nous écouter aussi. En tout cas, je trouvais ça intéressant à souligner. Puis, c'est à peu près ça. Dans le fond, j'ai plus grand-chose à rajouter, moi. On va revenir probablement demain. Puis c'est aujourd'hui qu'à l'émission qu'il y a sur Radio H2O. Attendez une petite minute, je vais aller voir dans... Sur Radio H2O... Radio H2O. On n'avait pas été long. Grille horaire. Mardi, Néo, c'est ça. Ah oui, j'ai oublié, à 19h. Ça n'a pas oublié. Puis mercredi, il va y avoir le direct avec Hydrogénial, que je crois c'est à 19h, je crois, comme disait. Je ne suis pas certain. Ça fait que c'est les deux choses à ne pas manquer. C'est là-dessus, on devrait revenir demain. Ça fait que amusez-vous bien, puis ratez pas Néo. Thank you.